Dans I Love America ce matin, on va retrouver Marc Lévy. Et oui, l'auteur bien connu, son livre, La librairie des livres interdits, c'est son dernier roman. Eh bien, il est paru en poche. Il traite ce roman de la censure des livres aux États-Unis. Et oui, il y a de la censure de livres aux États-Unis. Je l'ai appris et je pense que c'est assez édifiant. On parle justement avec lui de cette censure, de l'Amérique de Trump et bien sûr de l'actualité. Voici Marc Lévy, il est au micro lui aussi de Lise Benkemoun.
Marc Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, je voulais qu'on parle de la librairie des livres interdits qui est parue en poche en novembre 2025. La couverture est très belle. On voit une librairie aux étagères avec beaucoup d'ouvrages. Ça donne tout de suite envie de plonger dans cette histoire qui, au vu de cette couverture, semble légère, mais ça ne dit pas du tout l'importance de ce livre, puisque son vrai but, c'est d'aborder un sujet d'actualité, la censure des livres.
Oui, absolument, oui. Absolument. C'est un livre, oui, c'est une, la librairie des livres interdits, raconte en effet l'histoire d'un libraire. Qui est informé un jour, enfin qui reçoit un jour du gouvernement une liste de livres qu'il n'a plus le droit de vendre, et ce libraire ne va pas pouvoir se résoudre à obéir, et il va organiser dans les sous-sols de sa librairie une librairie clandestine où se réunissent lecteurs et étudiants pour parler justement de ces livres qui sont interdits et de la raison pour les des raisons pour lesquelles ces livres ont été interdits.
Alors, il se trouve que dans la réalité du monde d'aujourd'hui, on a cette loi qui s'appelle HB 1467, qui est passée aux États-Unis, et on a l'impression que ça n'a pas fait tellement de bruit que ça, en tout cas, pas autant que ça devrait.
La loi HB 1467, elle a été promue par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui appartient à la, on va dire, à la tranche assez ultra, j'aurais pas dire extrémiste, mais pas loin, ultra conservatrice de l'extrême droite américaine. La loi en l'état telle qu'elle est aux États-Unis n'interdit pas aux libraires de vendre des livres, elle interdit aux établissements scolaires, aux bibliothèques publiques et aux lieux publics de mettre ces livres en apparence à la vue des mineurs. C'est-à-dire qu'en fait, le but de ces, enfin, tout le propos de ces lois, cette loi, c'est le contrôle de ce que les jeunes peuvent lire ou ne pas lire, étudier ou ne pas étudier. Là, très récemment, au Texas, dans une prestigieuse université du Texas, un professeur de philosophie a été obligé d'arrêter son enseignement sur Platon, parce que Platon a été interdit au programme. Ce qui se passe aux États-Unis, dans les États républicains, c'est une mainmise de l'idéologie du gouvernement sur l'éducation. C'est très orwellien, mais c'est la réalité. Ça n'a pas fait de bruit plus que ça, parce que l'Amérique est, comment vous dire, écroule tellement aujourd'hui sous la corruption, la désinformation, les abus de droit et l'autocratisme en général, que la censure des livres n'est pas, vous voyez, n'est pas au premier rang de cette période très sombre que traverse l'Amérique, mais bien sûr, enseignants et libraires et écrivains et monde des lettres essayent de se manifester. PEN America a fait un recensement des près de 16 000 censures qui ont été faites au cours des dernières années par les autorités. Puis cette loi a fait des émules, évidemment, puisque toutes les gouvernances républicaines ultra-conservatrices sont engouffrées dans l'impunité accordée à Ron DeSantis. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous en avez un qui essaye, la réaction n'est pas suffisamment forte et molle, et ensuite l'ineffable devient entre dans le quotidien. C'est à peu près partout en politique, vous voyez. Vous donner un exemple, récemment, le département de la justice américaine a voulu poursuivre en justice six députés qui avaient rappelé aux militaires qu'ils avaient l'obligation de désobéir à des ordres illégaux, ce qui était un rappel de la loi. Évidemment, ça a déplu fortement à l'administration Trump, qui s'est empressée de dépêcher le ministère de la Justice, qui devrait être indépendant mais qui ne l'est plus, pour poursuivre en justice ces députés et ces sénateurs qui sont des élus, eux, pour sédition. Alors le grand alors le d'abord ce qui est fait hallucinant, c'est qu'un procureur a accepté de suivre cette recommandation. Et puis heureusement, il y a un grand jury, c'est-à-dire un jury populaire, qui a refusé ce qu'on appelle aux États-Unis l'indictment, c'est-à-dire qui a refusé que le que qu'un procès soit ouvert. Et alors c'est très rare qu'un grand jury refuse une procédure, mais ils l'ont fait. Évidemment, ça met un coup d'arrêt à la, enfin, pas définitif, mais ça met un coup d'arrêt comment vous dire, au renforcement du pouvoir du gouvernement de poursuivre ses opposants. Mais si le grand jury avait accepté, eh bien, la porte était ouverte pour d'autres procès en purge, comme on en voit notamment en Russie, en Biélorussie, et probablement d'ailleurs en Hongrie, mais ça, j'en suis pas sûr. Bref. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que c'est comme ça que la dictature s'installe. C'est en essayant de restreindre les libertés. Et puis, si ça passe, ça passe. Et puis, quand ça passe pas, on attend un peu, on réessaye, et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe avec les livres.
Alors, ce qui fait peur tout de même, c'est que la répression est très bien organisée, puisqu'il y a 3/4 des signalements de ces livres interdits qui ont été faits par des groupes de pression ou des collectivités, donc pas des parents, pas des étudiants, et ça fait quand même des milliers de titres signalés sur toute l'année scolaire. Ça fout les jetons.
Tous les grands projets, tous les grands projets démoniaques, tous les grands projets autocratiques, ne sont pas l'œuvre, d'une gouvernance. Ils sont pas seulement l'œuvre d'une gouvernance, ils sont l'œuvre d'une gouvernance et d'une quantité énorme de relais et de gens qui acceptent de faire ça. Quand on parle de la Shoah, je faisais une rencontre il n'y a pas très longtemps pour parler de la Shoah. La Shoah, elle n'est pas du seul fait d'Hitler. La Shoah, elle est du fait de tous ceux qui ont contribué à la Shoah. De celui qui conduisait le train à celui qui du policier qui allait arrêter les gens chez eux, du juge qui les incarcérait, du gardien de prison qui les gardait en cellule. C'est toute une chaîne de commandement. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle La Symphonie des monstres sur le kidnapping de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens par la Russie, par Poutine et par Maria Lvova-Belova. On ne déporte pas 20 000 enfants en claquant des doigts. Il y a des centaines et des centaines de gens qui collaborent à ce projet. Et donc le meilleur moyen pour l'autocrate et pour le dictateur de mettre en place sa gouvernance autocratique, c'est très souvent de fédérer les gens qui se sont nourris de haine, de détestation, les ultras, les extrémistes, et de leur faire adhérer et de devenir leur vigile. Et donc dans le projet diabolique de Ron DeSantis, effectivement, Ron DeSantis avait fait inscrire dans son texte de loi que tout parent, toute association, tout citoyen pouvait signaler et demander, et ça c'est pire, pas seulement signaler, mais demander à titre conservatoire qu'un titre soit retiré. Et comme les sanctions étaient assez importantes, par souci de prudence, eh bien, ils ont fait ce qu'on a appelé de la censure de masse. C'est-à-dire que, d'un seul coup, dans une bibliothèque, une centaine ou un millier de titres étaient considérés comme douteux, donc retirés en attente d'être étudiés pour prendre une décision finale. Comme il n'y a personne pour les étudier, dire qu'on les retire en attendant de les étudier, c'est autant dire qu'on les retire définitivement, puisque personne n'est payé pour en réalité étudier. Donc En résumé, n'importe quel citoyen en Floride et dans d'autres États où cette loi est appliquée peut rentrer dans une bibliothèque et dire tel et tel et tel et tel livre, je veux plus qu'il soit lu. Et personne ne peut s'opposer à l'ordre. C'est hallucinant. Et c'est ainsi que, par exemple, en Floride, eh bien, le journal d'Anne Frank n'est pas autorisé dans les bibliothèques scolaires, il n'est pas autorisé dans les bibliothèques publiques à être mis à la disposition et au libre accès des mineurs. Alors, ils ont le droit d'avoir une arme, ils ont le droit, oui, de porter une arme, mais ils n'ont pas le droit de lire le journal d'Anne Frank, pour ne citer que celui-là.
Alors justement, j'allais vous poser la question sur le journal d'Anne Frank parce que ça choque, mais il y a aussi 1984, Shakespeare, Toni Morrison. Est-ce qu'à votre avis, ce sont des ouvrages qui ont en commun de pousser à la résistance d'une certaine manière?
Tous les livres qui sont censurés, alors on va dire il y a deux catégories de censure de ce qu'on a pu étudier. Vous avez la censure de tout ce qui a trait à la sexualité et au genre. Ça, c'est la grande terreur des ultra-religieux américains. C'est leur détestation. Ils ont une obsession, une haine. Et une détestation de la sexualité, de l'homosexualité, qui est absolument fascinante, tristement fascinante, mais fascinante. Vous avez ensuite tout ce qui touche au racisme. Les MAGA sont fondamentalement racistes, mais ils ne veulent absolument pas le reconnaître. Ils sont d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, pour une très grande, très très grande majorité d'entre eux, fondamentalement antisémites, mais ils ne supportent pas qu'on le leur dise et qu'on le leur montre. Donc vous avez, on va dire, tous les ouvrages qui traitent des minorités. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont censurés? Ils sont censurés parce que vous pouvez être bêtement et crassement raciste ou antisémite. Mais si vous lisez un roman de Toni Morrison ou si vous lisez le journal d'Anne Frank, vous ne pouvez plus l'être à la fin de la lecture. Parce que vous passez du préjugé comment vous dire, à la rencontre avec un personnage, avec des personnages qui vous ressemblent, dont les émotions, dont le vécu, dont l'humanité vous touche. En France, il y avait dans ma jeunesse un racisme à l'égard des communautés arabes extrêmement importantes. Je peux pas juger de savoir si c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans que je vis ailleurs. Mais enfin, dans mon enfance, il y avait une culture du racisme anti-arabe qui était vraiment extrêmement développée. Si vous lisez l'arabe d'Antoine Audouard, enfin, vous ne pouvez plus avoir un seul préjugé. Parce que ce livre fait éclore votre propre humanité, elle fait exploser vos préjugés, ce livre décompose tout ce qui a pu vous être, tout l'endoctrinement dont vous avez pu être victime, et ça vous met au contact de l'humain. C'est ça le grand pouvoir des livres. C'est pour ça d'ailleurs que les dictatures ont toujours eu plus peur des livres que des armes. Les livres nous font aimer, là où la rhétorique des autocrates nous fait haïr. Donc la politique des extrémistes, elle est faite de mensonges et d'injonctions, de hurlements, de violences, d'agitations qui font que, vous voyez, on est sous l'emprise d'une émotion, d'une virulence, et on déteste en masse. On déteste les juifs, on déteste les arabes, on déteste les noirs, on déteste les bleus, les jaunes, les rouges, tout ce que vous voulez. C'est l'effet de masse. Le livre, on le lit tout seul. Et quand on est face à une lecture, tout ce vacarme de la détestation s'étouffe. On n'est plus que dans le silence et dans la concentration d'une histoire qui nous touche et qui va au plus profond de nous. On ne peut pas lire l'œuvre de Toni Morrison et être raciste après. C'est pas possible. Ou alors c'est qu'on ne lit pas, mais on ne peut pas. Donc ça fait terriblement peur aux racistes, aux extrémistes et aux autocrates. Ça leur fait très très peur. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de romans. Et puis il y en a une plus générale, qui sont que tous les livres qui déconstruisent l'idéologie autocratique, tous les livres qui déconstruisent l'extrémisme religieux, tous les livres qui incitent, comme vous le dites, à la connaissance, à la et donc à la résistance, parce que, eh bien évidemment, ils font très très peur. 1984 fait terriblement peur aux républicains américains, puisque 1984 raconte exactement ce que les républicains sont en train de faire maintenant et les conséquences. Donc évidemment que ça leur fait très très peur, c'est clair.
C'est compliqué quand vous parliez de racisme et d'antisémitisme des MAGA, c'est compliqué aujourd'hui pour les Juifs et pour les Israéliens encore plus de critiquer Donald Trump et ses amis. Alors que pendant ces 2 années et demie, l'Amérique a été tout de même largement aux côtés d'Israël et dans la lutte contre l'antisémitisme, non?
Je crois que c'est pas compliqué. Vraiment, je crois que c'est pas compliqué. Si, pardon, je vais utiliser une image forte, mais si votre voisin vous aide pendant 2 ans et que vous prenez conscience jour après jour que votre voisin est un criminel et un violeur, c'est toujours votre ami?
Non.
Ça, c'est une question de bon, bah, c'est une question de conscience.
Bien sûr.
Bien sûr qu'on peut fermer les yeux par intérêt. Évidemment qu'on peut fermer les yeux par intérêt. Vous croyez, est-ce qu'il y a une personne en Israël qui croit vraiment que Donald Trump a fait ça pour les beaux yeux d'Israël? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire une seule chose que Donald Trump et ses acolytes ont fait dans leur vie par amour de l'humanité, par générosité? Mais ça n'existe pas. Donc, c'est pas parce que Epstein donne 1000 dollars à une association que ça fait de lui un bon gars. Hein. Et c'est pas parce que ça n'est pas parce que des criminels viennent vous donner un coup de main que ce ne sont pas pour autant des criminels. En revanche, il y a toutes les raisons de penser que les criminels en question vous ont donné un coup de main parce que c'était leur intérêt beaucoup plus que le vôtre.
C'est sûr.
Donc, je ne vous impose pas de réponse, hein. Je vous pose juste la question, hein. Si vous savez qu'un homme de mal et un homme qui est en train de déconstruire le monde, qui fait alliance avec les dictateurs, qui envoie des milices masquées tirer sur sa propre population, qui trahit tous ses alliés, tous ses amis. Si vous savez que cet homme-là vous a aidé, certes, mais qu'il reste votre ami parce qu'il vous a aidé, c'est à vous de prendre la décision. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je sais que il n'est pas le mien. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que par intérêt et par concupiscence, eh bien, on court à notre perte et à celle de nos enfants. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas juge, mais c'est ma propre opinion. Je l'assume entièrement.
En tout cas, on entend bien et on le voit aussi dans l'évolution des thèmes de vos livres. Vous avez cité tout à l'heure la Symphonie des monstres et également la trilogie sur les hackers. On vous sent de plus en plus préoccupé par l'état du monde. Vous espérez que la librairie des livres interdits va faire des émules, va convaincre des gens de faire, par exemple, comme Lauren Groff, d'ouvrir une librairie en Floride, plus gros état censeur des États-Unis, ou de passer des livres sur le manteau, peut-être?
Pour rester humble, hein, moi je ne sais qu'écrire des livres. Ça a créé un mouvement, on a créé un petit mouvement assez sympathique, d'ailleurs avec la collaboration d'un certain nombre de libraires qui ont joué le jeu et qui ont mis en avant sur des tables dans les librairies, remis en avant des livres interdits, parce que finalement, il faut savoir être, il faut faire preuve de plus d'intelligence que les dictateurs, Parce que finalement, leur talon d'Achille, c'est ce défaut-là. Et donc, l'interdit est extrêmement excitant. Donc, il fallait ce, on s'est servi de ce, on s'est servi de leur bêtise pour susciter un intérêt chez des gens qui ne lisent plus ou chez des jeunes, et de remettre au goût, de leur dire, bah, si ce livre a été interdit, c'est qu'il doit quand même y avoir un truc dedans. Donc, il y a eu un mouvement assez important, y compris dans des classes, dans des lycées, sur Internet. Il y a des associations qui se sont regroupées. Pour financer des achats de livres et de permettre de les envoyer. Bien sûr qu'il y a une résistance, heureusement qu'il y a une résistance. Le fait d'écrire, c'est surtout un moyen de partager. Vous voyez, c'est un moyen de, c'est un moyen de faire savoir. Moi, ce qui m'a le peut-être le plus le plus plu ou rendu heureux après la publication de ce livre, c'est le nombre important de courriers que j'ai reçus de lecteurs me disant, je ne sais, j'ignorais complètement, mais comment est-ce possible?
C'est vrai.
Parce que c'est aussi là, le comment vous dire, l'arme redoutable des dictateurs, c'est de faire les choses sans que la population se rende compte de la portée de leurs actes avant qu'il ne soit trop tard.
Ouais.
Vous savez, les dictatures ne vivent que dans l'isolationnisme. D'ailleurs, quand je parle avec des Américains, de ce qui est en train de se passer en ce moment, ils sont consternés de voir, ils sont consternés. Sont consternés de voir l'image de l'Amérique dans le monde, alors que l'Amérique était la lumière du monde démocratie. Et aujourd'hui, vous voyez, elle en est, elle, elle, enfin, elle en est le symbole de l'obscurantisme. Donc c'est incroyable à quelle vitesse ça va. Vous voyez, c'est absolument terrifiant, de voir la dégradation de l'image de l'Amérique dans le monde. Alors les extrémistes s'en foutent, mais pas tout le monde.
Non, pas tout le monde. Merci beaucoup, Marc Lévy, pour votre franchise et d'avoir accepté de parler de ces sujets qui sont pas faciles, mais ô combien importants. La librairie des livres interdits, ça se lit aussi comme une histoire d'amour, comme un thriller, en plus de tout ce dont on a discuté, qui est le cœur du livre. Bonne journée à vous et à très bientôt.
Merci, au revoir, bonne journée.